When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
C'est dur pour toi le vide ?
Ça dépend des jours. Alors ça a été dur au tout début. Là c'est moins dur. Là je commence à trouver mon rythme, mon quotidien. Tu vois, le cheval, je me lève tard, etc. J'apprécie, je prends le temps. Et je me rends compte que je ralentis tout et j'adore. Tu vois, genre, j'écoute les vocaux en x1.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent, tout simplement ? Alors, je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préférée, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Chanty.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Merci de venir.
Avec plaisir, merci de m'avoir proposé de venir.
Mais j'ai l'impression que pour toi, ça a été un peu un chemin accepté de venir parler d'argent, ton histoire d'argent.
Je dirais pas un chemin. Après, il y avait une question aussi de timing, parce que je suis pas tout le temps à Paris dispo. Mais c'est sûr que c'est pas un sujet où, quand j'ai vu le podcast, je me suis dit « Ah, j'ai trop envie d'aller en parler ».
Ok.
Ni même qui m'intéresse de très très loin, tu vois. Alors que là, en plus, j'ai des sujets d'argent et beaucoup de gens qui me parlent de ça par rapport à ma situation. On va en parler, je pense. Mais je suis là, en fait, ça m'intéresse pas.
C'est marrant parce que quand mon alternant a vu que j'interviewais une Chanty, il m'a dit « Tiens, c'est marrant, c'est comme la marque de biscuits ».
C'est vrai.
J'ai fait « Bien, ça tombe bien, c'est elle ».
C'est elle.
Donc, t'es donc la fondatrice, la créatrice de cette marque qui a eu son petit buzz sur internet de biscuits personnalisés, des sortes de petits lus, je sais même pas si on a le droit de le,
si des sablés, de la forme d'un petit beurre.
Effectivement, d'un petit beurre, ouais. Voilà. J'avais pas
ouais,
la. Et donc effectivement, t'y as mis beaucoup de ton âme et de ton esprit parce que t'es une meuf assez marrante. D'ailleurs, j'ai envie d'inviter tous les gens à aller t'inviter. J'ai envie d'inviter tous les gens à aller s'inscrire à ta newsletter.
Ah, merci.
Parce que franchement, ta newsletter fait partie des quelques newsletters sur Internet que je lis et que j'adore lire, quoi. Donc, donc c'est chouette. T'as imprimé dans cette boîte une vraie patte, en fait. Beaucoup d'humour. Et effectivement, les messages que tes biscuits se sont fait connaître parce qu'ils étaient idiots un peu, quand même.
Ouais, c'était très drôle. On mettait des blagues sur des biscuits et en fait l'idée c'était de dire sur un biscuit quelque chose que tu... Enfin, c'est ça que je mettais sur Instagram, quelque chose que tu t'attendais pas du tout à voir sur un biscuit ou sur un cadeau de manière générale, et c'était inattendu.
T'as vendu cette boîte ?
J'ai vendu en novembre, donc il y a à peu près 6 mois.
Ouais, donc t'es encore, on peut dire, c'est encore tout frais pour toi, cette... parce que tu l'as vendu et t'es parti, quasiment
oui.
instantanément. Quoi.
Oui, alors j'avais 3 mois de transition en freelance, mais j'étais pas vraiment là, etc. Et ça s'est fini il y a 2 mois. Mais comme le process de vente, il a été long, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps qu'en fait je suis dans ce truc de c'est fini, c'est bientôt la fin, je passe à autre chose.
C'est un vrai sujet hein, d'ailleurs de réussir à tenir pendant le process de vente qui peut aussi marquer une forme de désengagement souvent de la part... C'est dur de rester dans le game alors que t'es en train de partir dans ta tête. Quoi.
Ouais. Ah, c'était une période très bizarre. Tu peux pas le dire, donc tu dois être à fond, mais en même temps tu sais que c'est peut-être bientôt fini, mais c'est pas sûr.
Et là, t'as vendu il y a quelques mois, effectivement. Et donc là, actuellement, t'as plein de sous. T'as gagné plein de sous. C'est trop marrant parce que tu m'as dit juste avant que tu... Comme tu ne voulais pas donner le montant, publiquement, j'imagine, t'as décidé de le coller dans le contrat.
Oui, c'est parce que j'avais pas envie que l'acheteur le dise. Parce que le contrat était des deux parties.
Ouais.
Et en fait déjà j'ai jamais communiqué sur les chiffres d'affaires de Chantilly Biscuit.
Ok.
Je l'ai fait au début et au bout d'un moment j'ai arrêté et en fait j'ai vraiment réalisé au moment de la vente que les gens avaient une image de Chantilly Biscuit de l'extérieur qui était beaucoup plus grosse que la réalité.
Toujours si tu dis pas
parce
le chiffre.
Parce qu'on a beaucoup de notoriété etc.
Et en tu fait fais
je,
du buzz.
Voilà. Et en fait je voulais garder ce mystère de en fait j'ai pas envie de mettre un chiffre surtout que les gens ils définissent vraiment la réussite d'une boîte par son chiffre d'affaires. Donc, je voulais enlever ce rapport au chiffre. Et même moi, le montant final, c'était pas celui que je voulais. Donc, il y a plein de... Même si je suis très contente d'avoir cet argent aujourd'hui. Donc, j'étais là, je veux pas que les gens sachent.
Parce que pour toi, c'était pas assez. C'est-à-dire que si t'avais vendu plus, t'aurais été plus à l'aise.
Complètement.
Ah ouais?
Ouais.
Mais donc en c'était, fait, pas juste, est... c'était pas juste un rapport de ne pas dire le montant que t'avais vendu.
Non.
C'est aussi un marqueur de réussite.
Bah oui, en fait, je veux pas que les gens sachent. Et en plus, alors, c'est parce que je suis dans le microcosme des startups, des trucs ultra valorisés, où il y a des montants de fous qui ne représentent pas en plus forcément la majorité des entreprises en France.
Oui,
forcément,
La vraie... En fait, c'est pas parce qu'une boîte est valorisée à des montants de ma boule qu'à la fin, ils vont finir par vendre ce montant-là. Ça n'a strictement rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Et Chantilly Biscuit, pourtant, en soi, c'est une énorme success story parce que j'ai démarré avec 0€ en partant de rien. Et j'aurais jamais cru avoir cet argent sur mon compte un jour. Mais jamais. Mais...
On va en parler.
je ne voulais pas le dire. Le montant.
parce que t'étais dans ce microcosme où... En plus, désolé, mais il y a plein de boîtes. Alors, je ne sais pas pour les gens qui écoutent là, s'ils ont un peu conscience... Mais il y a des boîtes qui sont valorisées des millions millions et des millions d'euros, qui se cassent la gueule au bout de 3 ans, ne valent plus rien,
grave.
Et que les fondateurs finissent avec peanuts, quoi.
Ah bah oui. Oui, je sais.
Alors que... Et c'est un vrai succès, en fait, de réussir à vendre une boîte. Je sais pas si les gens qui écoutent s'en rendent bien compte.
Ah oui, oui, non. Et puis en cette période aussi.
En cette période, qui est quand même un peu merdeuse.
Ouais.
Donc c'est un vrai succès, gentil.
Oui. Oui. Ah oui, c'est un succès d'avoir vendu la boîte. C'est sûr à 100%.
Ça, t'es à l'aise avec l'idée.
Je suis très à l'aise. J'ai zéro regret, je suis trop contente et tout. Mais c'est vrai que le montant de la vente n'était pas celui que j'aurais espéré avoir au début.
Ok. Au
début de la vente, enfin du process de vente.
Ah oui, ok.
J'ai un sujet avec mes investisseurs aussi. Donc il y a ça aussi, quoi. Donc pour cette raison, au moins, eux, ils peuvent pas en parler non plus. Voilà.
Tu peux me dire combien tu espérais vendre ?
J'espérais vendre le double.
Ok.
Voilà.
Et la différence qu'il y a entre les deux, aujourd'hui encore, ça te fait chier ?
Ah non, ça me fait pas chier du tout.
Okay.
Moi, je suis très contente. Ça m'aurait pas changé ma vie d'avoir...
2 fois plus d'argent.
Non. Alors, je peux donner une fourchette. Hein. C'était entre 1 et 5 millions, voilà.
Ok.
Ça m'aurait pas changé la life. Mais il y avait un sujet de plus-value de mes investisseurs, d'image publique. Et j'aime bien l'idée de pas mettre de chiffres. C'est comme, j'ai jamais montré... l'usine de Chantilly Biscuit, comment on faisait les biscuits, parce que je trouvais que c'était mieux que les gens s'imaginent comment ça se passe.
Et Charlie et la chocolaterie,
exactement,
quoi.
Et qu'il y a un côté, tu sais pas en fait, donc tu peux tout imaginer, et c'était pareil en fait, je me dis, bah, au moins vous pensez ce que vous voulez, vous, vous mettez le marqueur que vous voulez sur ça.
Ouais, mais tu dis que c'est pas que en rapport avec les autres, c'est aussi en rapport avec toi.
Oui.
c'est pas que ok les autres vous fantasmez ce que vous voulez.
Oui.
C'est avant tout un vrai problème entre toi et cet argent-là.
Et j'avoue qu'en fait, je sais même pas à quel montant je me serais dit ok je le dis en public. Je sais même pas, tu vois.
Ah ouais.
Ouais. J'ai jamais eu ce rapport où j'ai un objectif de vente de Chantilly Biscuit de me faire tant d'argent avec cette boîte. Jamais, ça a jamais été un sujet. Donc j'ai pas eu ce truc de il faut que j'atteigne ça et ça c'est ma réussite de la boîte. Donc je sais même pas en fait.
Ok. C'est trop intéressant. T'as pas encore payé en plus tes impôts.
Non.
Donc tu vas.
J'ai un tiers qui va partir.
Les gens ne savent pas, mais en fait, une fois que tu as vendu, t'as fait la vente, effectivement, t'as un tiers qui part aux impôts que tu vas devoir payer là, dans l'année à venir, quoi.
Oui.
Tu vas faire un énorme chèque-os alors.
Ah bah grave, le plus gros de ma vie. Pour acheter une maison avec ça.
Oui. Mais bon, c'est de l'argent que t'as gagné.
Oui,
bah t'es à l'aise avec ça.
Oui, ça fait partie du jeu.
Ouais.
Complètement.
N'empêche que, tu vas voir, moi, ça fait partie, c'est pareil. Hein, j'ai vendu Mademoiselle et en fait, quand tu as un tiers de ce que tu vends, moi, je me souviens, je l'ai fait en trois trimestres, tu vois. Donc, t'as trois virements qui partent.
Ah, mais c'est sûr qu'il y a un côté, tu te dis, cet argent, je l'ai mérité, il est à moi. Mais bon, moi, je suis passé au-dessus de ça. Mais de toute façon, tu peux rien y faire.
Ah non, alors je parle pas. C'est marrant parce que pour moi, je suis très à l'aise avec le fait de payer les impôts. Mais pour moi, il y a un vrai truc trop intéressant à vivre de... Tu vois que du jour au lendemain, t'as un tiers de ta thune qui a disparu comme ça, sur ton compte en banque. Ouais. C'est intéressant de voir l'émotion que ça te fait à ce moment-là. Ouais. En tout cas, de la regarder. Moi, comme j'étais à fond dans le travail sur l'argent, je me suis dit, profites-en bien, parce que c'est pas forcément tous les jours que tu vas réussir, que tu vas faire un virement pareil, quoi. Ouais. C'était intéressant à vivre.
Bah, c'est vrai que nous, on avait fait, bon, c'était dans la boîte, mais déjà des gros virements sur des travaux, des grosses machines, etc.
C'est pas ton argent.
Mais c'était pas mon argent. Mais il y avait déjà aussi un côté... Ok, je fais un virement 100 000 euros.
Mais c'est pas ton argent.
Non, c'est pas mon argent.
Et c'est pas pareil, on est d'accord ou pas?
Ah, on est complètement d'accord.
Ouais.
Ça n'a rien à voir.
C'est quoi pour toi la différence? J'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs ici, tu sais, qui ne vivent pas du tout de la même façon l'argent de la boîte et leur argent perso.
Alors, je pense que ça a évolué au fur et à mesure. Déjà, quand j'ai démarré la boîte 2013, j'ai démarré en auto-entrepreneur. Donc, tout venait sur mon compte et j'avais pas de séparation. De Chantilly Biscuit, en fait, tout venait sur mon compte. Je faisais
plus,
pas de...
En plus, c'était ton prénom.
Exactement, c'est pareil.
Cette entreprise, c'est moi.
Et donc, je saurais même pas dire... En fait, je notais, tu vois, les commandes, tu vois, j'additionnais, quoi. Mmh. Je sais mon chiffre d'affaires, mais j'ai aucune idée de ma marge. Rien, tout venait sur mon compte. Je savais que j'avais assez d'argent pour payer mon loyer, etc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Donc tout était mélangé.
T'as fait ça pendant combien de temps?
2 ans.
Ah ouais, quand même.
Oui. Bah, c'était petit, hein.
Ouais.
C'était biscuit. Tu vois, je faisais 40 000 euros chiffre d'affaires, tu vois. Mm. Et après, quand on a structuré la boîte, là, on a fait la séparation. Mais je me souviens, pendant très longtemps, je faisais des virements de mon compte à Chantilly Biscuit s'il fallait renflouer, pas dans l'autre sens. Et c'était un peu mélangé, c'était pareil, tu vois. Il y avait plein de trucs que j'achetais en perso, en mode de toute façon, la boîte, c'est moi. C'est la même chose et ça m'a mis longtemps avant de me dire ok, en fait c'est séparé. Et
c'était quoi le changement?
Je pense que c'est quand la boîte a commencé vraiment à grandir. Et puis il y a eu une période, alors je sais pas si c'est ça, mais il y a eu une période aussi, alors donc je démarre en 2013, peut-être 2016-2017, qui était un peu difficile, où j'ai eu un moment où j'aimais moins la boîte. Je me sentais moins bien, c'était difficile. Oui. Et peut-être là, je suis en mode, en fait, j'ai envie de séparer. Enfin, je sais pas, tu vois, de peut-être faire une coupure. Et 2022, donc c'est très récent, on avait un compte courant avec de l'argent que la boîte me devait depuis le début. Et j'ai fait le virement. À un moment donné, je dis, en fait, c'est bon. Rendez-moi tout ce que vous me devez, tu vois. Alors qu'avant, en fait, je suis là, c'est pour la boîte, c'est utile, etc. De toute façon, la boîte, c'est aussi moi, mon patrimoine. Et j'ai dit, non, mais là, je veux tout ce que la boîte me doit.
Pour les gens qui ne savent pas, il y a une possibilité, effectivement, d'avoir cette possibilité comptable de garder sur ce qu'on appelle un compte courant d'associé l'argent que, finalement, la boîte te doit.
Ouais.
Et toi, tu as la possibilité, en tant qu'associé, en tant que boss, de la récupérer ou pas, ou de le laisser dans la boîte.
Oui,
quoi.
C'est la boîte. En fait, c'est des choses que j'ai avancées pour la boîte. Ça pouvait être soit des salaires que j'ai pas pris, soit des achats que j'avais fait, etc. Et en fait, je savais même pas que j'avais ça. Parce que c'était mon DG qui gérait la partie finance. Moi, je touchais pas, ça m'intéressait pas. Et en fait, quand il est parti, j'ai externalisé la partie finance. Et en fait, ils m'ont fait un peu un état des lieux. Et ils m'ont dit, bon, bah, en fait, il y a 12 000 euros, en fait, quand même, que la boîte te doit. Je fais, bah, c'est bon. Rien à foutre du compte en banque de la boîte. Bon, il y avait la trésor, hein. J'ai pas mis la boîte en galère. Mais c'est bon. Tout ce que la boîte me doit, je suis plus importante que la boîte maintenant.
Et c'est pareil, qu'est-ce qui t'a fait changer ça?
C'était un peu pareil, des moments difficiles de la boîte. Je commençais aussi, c'était pas très longtemps avant que je lance le process de vente, en fait, je vis pas pour la boîte, quoi. En fait, je vis pour moi à un moment donné. Et si un jour ça s'arrête, je veux quand même avoir un peu de côté et une sécurité et de ce qu'on me doit. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était la même chose. Que Chantibiscuit me devait rien parce qu'en fait c'était moi, Chantibiscuit c'est à moi, donc c'est pareil, etc. Et en fait je me dis, on ne sait pas ce qui peut se passer, je vais me sécuriser, je vais reprendre tout ce qu'on me doit. Et ça m'a, je pense que je me suis auto-valorisée déjà dans la boîte me dire, en fait j'ai le droit à cet argent, je suis légitime, etc. Je l'ai avancé, je le récupère, il est à moi et j'ai aucun scrupule à avoir à le faire.
Et t'as mis 10 ans quasiment. Entre 2013 et 2022, quoi.
Oui. Alors, mais après, au début, j'y connaissais rien, tu vois. J'étais là en toute innocence.
Non, mais
auto-entrepreneur.
Encore une fois, c'est pas une question de s'y connaître ou pas. C'est juste de la valeur que tu te donnes dans ta propre boîte, quoi.
Ah oui, complètement. Ah bah, surtout que moi, j'avais toujours j'ai eu longtemps le complexe d'imposteur parce que j'avais des gens qui avaient fait des grandes écoles avec moi, etc. Donc, eux, ils savent et tout. Moi, je suis pas légitime. Cet argent, en fait, je le mérite, mais en même temps, la boîte, on pourrait fatalement faire plus, etc. Et à la fin, je me dis, non, mais en fait, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis fier, je suis à ma place. Rendez-moi mon argent. Et même, cette année-là, je me suis augmenté deux fois, tu vois. Et j'ai réalisé que par rapport à des potes qui ont des boîtes beaucoup plus petites et moins rentables que Chantibiscuit, je me payais peut-être la moitié, tu vois.
Tu te payais combien? Tu peux le dire? Tu veux le dire?
Je peux retracer mon historique de salaire.
Ouais, mais c'est intéressant parce que je trouve... Enfin, tu sais, moi, on en a, je crois, parlé, mais moi, je ne me suis pas payé pendant 7 piges. Hein.
Ah ouais, non, j'ai pas fait autant.
En gros, j'ai eu les deux premières années de chômage, donc ça, à la limite, je le compte pas, mais voilà. Et après, pendant 5 ans.
Ouais. Alors moi, j'ai pas eu de chômage quand j'ai démarré. Non, avant Chantibiscuit, j'étais au SMIC, donc j'ai jamais eu gros salaire ni rien. Et j'ai pas d'enfants, j'ai pas de charges non plus. Je démarre Chantibiscuit pendant 2 ans, donc tout vient sur mon compte mélangé en auto-entrepreneur, donc je compte pas, mais j'avais un loyer de 400 euros et je faisais que bosser quasiment, donc j'avais pas de...
Oui.
Ma vie ne me coûtait pas cher. Ensuite, 2015, mes parents partent pendant 3 ans, je récupère leur maison, donc j'ai plus de loyer aussi. Et là, je me suis associée et je pense que là, je me payais pas. Je me payais selon le chiffre d'affaires du mois ou du moment, entre rien et peut-être 1005 max, tu vois. Je pense que j'ai pas dépassé les 1005.
La boîte, à ce moment-là, avait la possibilité que tu aurais pu te payer beaucoup plus cher.
Ah bah oui, j'avais des salariés. Qui n'avaient pas des hauts salaires, tu vois, c'était... un peu plus que le SMIC, mais je l'ai payé eux en priorité et la boîte avait de la trésor. Enfin, j'aurais pu. J'aurais largement pu me payer. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur aussi s'il manque de l'argent. Et j'avais un côté, j'en ai pas besoin en fait. Tu vois, ma vie c'est chantier biscuit. Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je passe toutes mes journées, tous mes week-ends à bosser. Il y a rien d'autre. J'ai pas de spécialement de sorties. J'ai pas de dépenses. Tu vois, je suis pas très fringue ni rien.
Et oui, mais tu te rends compte aujourd'hui de...
Mais j'avais zéro sur mon compte. Hein.
Oui, j'allais dire,
j'avais pas d'économie.
Compte aujourd'hui à quel point t'es... Quand tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied.
Mais de ouf.
Oui.
De ouf. En fait, plus jamais je fais ça.
Oui.
Je recommande pas. Ne faites pas ce que je dis. Maintenant, je remonte une boîte demain, je mets mon salaire en priorité au même niveau que les salariés. Mmh. Et je ne touche pas, enfin, c'est sûr. Et parce qu'après, même ça me mettait, dès que la boîte avait un problème, en fait, toute ma vie était en danger presque, parce que je dépendais de la boîte. J'avais rien de côté, etc. Mais j'étais tranquille, quoi. Enfin, ça m'inquiétait pas, tu vois.
Ouais, mais bon, on va en reparler après parce que pour moi, ça a rapport avec ta relation à l'argent.
Oui.
Quand tu fais ça, c'est pas anodin.
Ah, mais non, mais complètement.
Effectivement, t'es en train de dire, ok, bah, j'avais toute ma vie, j'avais toute ma boîte, je m'en occupais. En fait, globalement, j'avais pas besoin de cet argent. Mais
si,
il y a un loup derrière.
Bah, bien sûr. La boîte s'arrêtait demain, j'avais zéro.
Ouais.
Zéro, zéro, pas de chômage, rien.
Ok.
Et ouais, donc je me suis. Il y a eu un moment où je me payais, je pense, allez, 2018, on lève des fonds. Donc j'ai de l'argent. Je recrute des mecs que je paye 50, 70K. Moi, je suis à 2000, tu vois. Mais parce que je suis en mode, en fait, ça me suffit, tu vois.
Quand tu dis 50, 70K à l'année?
Ouais.
Et toi, t'étais à genre...
En fait, moi, j'ai toujours compté au mois parce qu'à chaque fois, je disais à la comptable, alors ce mois-ci, vous me faites tant, ce mois-ci, vous me faites tant.
Ah oui, oui.
Mais je dépassais pas 2000, 2005.
T'as la possibilité en tant que gérant, qu'associé, de pouvoir décider tous les mois de ton salaire. Je crois que les salariés le savent pas forcément.
Après, je pouvais plus parce que mon salaire était dans les statuts.
Ok.
Donc il y a eu un moment, mais je pense que c'était par là, c'était pas longtemps après ça. Mais donc je me payais...
Pourquoi t'avais mis ton salaire dans les statuts?
C'était comme ça, je crois que c'était les associés qui, pour les deux mandataires, donc DG et président... Le salaire doit être voté en en AG. Même si c'est moi qui avais tous les votes, presque. Donc, en fait, c'était moi qui décidais. Mais après, à côté de ça, j'avais quand même des avantages du style. J'avais tous mes déplacements à Paris, forcément, sur la boîte. J'avais la voiture, enfin, l'essence, des trucs comme ça.
C'est pas du salaire, ça.
Non, c'est pas du salaire. Jusqu'à 2022, donc la boîte a un chiffre d'affaires à 7 chiffres quand même. Je me paye la moitié de mon DG, tu vois. Et il y a toujours ce truc de je vaux moins que lui, peut-être, tu vois. Et ça me suffit, tu vois. Je me disais, mais ça me suffit, en fait. J'ai pas besoin de plus. De toute façon, j'étais un peu plus que 2000, tu vois. J'étais peut-être 30, 40, tu vois, donc j'avais de l'argent de côté que je cramais dans mes vacances à chaque fois, tu vois, j'économise, paf, je mets tout dans deux semaines. Et après, quand il est parti et que j'ai réalisé aussi qu'en fait, le DAF que j'avais, il m'a dit, mais Shorty, mais paye-toi plus, en fait, la boîte a les moyens, tu le mérites, etc. Je voyais mes potes entrepreneurs aussi, quand on parlait salaire, même mes avocats, ils m'avaient dit, ah, mais sur les boîtes de cette taille, la majorité, ils sont à temps. Je fais, non, mais attends, moi, je suis largement en dessous. La boîte a les moyens. Et en plus, ce que j'avais pas réalisé, que j'ai réalisé sur la fin, c'est qu'il y a aussi un risque pénal, tu vois. Enfin, il y a des risques qu'on court aussi qui méritent aussi.
Ouais, pourquoi je n'avais pas ça.
Tu vois, en tant que mandataire, si t'as un problème, c'est toi qui prends, tu vois.
Ah oui, d'accord. Oui,
et je me dis, en fait, dans ce sens-là, t'as aussi un risque qui coûte un stress.
Oui.
Qui a une valeur.
Ah bon? Ça a une valeur. C'est le stress.
Et donc, 2023, je me suis dit, c'est bon, je m'augmente. Je ne suis pas allé très très haut. Et en fait, je me suis payé un tout petit peu plus que ce que je payais mon DG avant pour dire, en fait, j'ai la même valeur et je suis autant, voire un peu plus importante dans la boîte. Et en fait, pour mon estime personnelle, ça m'a fait grave de bien pour prendre ma place dans la boîte.
La dernière année, donc.
Ouais, 2020, début 2022, j'ai fait ça. Ouais, les deux dernières années.
Donc,
Sachant qu'après, on n'a jamais versé de dividendes ni rien. Mais...
T'as jamais pris de dividendes ?
Non, parce que moi, mon but, c'était la boîte. C'était que ça grandisse, c'est qu'on puisse avoir l'argent pour faire des gros trucs,
réinvestir.
À chaque fois qu'on a acheté une machine, c'était 50-80K. On a fait des pop-up qui nous ont coûté cher, etc. Mais moi, j'ai fait Chantilly Biscuit pour pouvoir faire des choses. Et en fait, avoir le maximum d'argent, je m'en foutais, quoi.
Aujourd'hui, tu regrettes ou pas avec le recul ?
Je regrette de pas m'être payé plus. Complètement. Ouais.
Ok.
C'est sûr.
Ok.
Et ça va que j'ai vendu la boîte. Parce que si tu vends pas la boîte, ce qui arrive souvent, enfin parfois en tout cas, t'as vraiment rien, quoi. Que t'es en galère, là je me dis heureusement, quoi.
Ok. Bah merci, en tout cas...
C'est très longue intro.
Mais c'est une intro trop intéressante parce que ça pose un peu le paysage, mais il y a plein de choses que tu vas raconter là, j'imagine, qui viennent de pourquoi tu t'es traité comme ça finalement. Parce qu'il n'y a que toi qui t'es traité comme ça pour le coup, c'est pas... C'est toi qui as décidé toute seule, quoi.
Bah
c'est trop
ouais.
intéressant. ça aussi qui est horrible en tant que patron, c'est que c'est toi qui décides en tant que patronne, c'est toi qui décides du traitement que tu te donnes. C'est-à-dire qu'il y a... Si t'avais eu, tu vois, j'entends bien qu'il y a ton DAF à un moment donné qui t'a dit non mais tu te payes pas assez, tes avocats qui t'ont dit non mais en vrai t'avais un regard extérieur. Si t'as pas ce regard extérieur, c'est juste de toi à toi, dans ton propre miroir.
Exactement.
La façon dont tu décides de te valoriser finalement dans cette boîte, quoi.
Ouais. Oui.
Et avec ton petit syndrome de l'imposteur, mais t'inquiète, moi j'ai eu le même. tu décides de te payer comme tu veux, quoi.
Ouais.
Mais avant ça, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'interview. En fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors, j'ai un peu réfléchi. Alors, ça m'évoque plein de choses. Bon, ça m'évoque la vente de Chantilly Biscuit, forcément, parce que c'est mon dernier le truc le plus récent où il y a eu de l'argent. Quoique, encore plus actuellement, ça m'évoque le fait que je n'ai pas d'argent qui rentre, et que de l'argent qui sort. Mais si je remonte plus loin, enfance, je dirais, c'est privation, moi. C'était vraiment, on faisait rien, tu vois, pas de resto, pas de vacances, etc. Alors que mon père, il avait quand même un salaire correct, tu vois, mais c'était vraiment, ça coûte trop cher. C'est la phrase, ça coûte trop cher. C'est vraiment, tu fais pas trop d'équitation parce que ça coûte trop cher. Non, tu n'achètes pas ça, ça coûte trop cher. On va pas prendre des habits, ça coûte trop cher. C'était vraiment tout le temps.
On va en parler, mais peut-être dans ton souvenir de ton éducation.
Oui, ça je peux raconter.
C'est quoi ton souvenir en rapport avec l'argent ?
Alors, je dois mettre un peu de contexte. Je suis née dans une famille mormone, qui est une branche du christianisme. Ce n'est pas une secte, mais je pense que la limite est fine. Emoji. Et sans rentrer dans les détails de ce que c'est, donc il y a quand même des règles très strictes à suivre, dont payer la dîme. Donc en fait, chez les mormons, tout l'argent que tu gagnes, tu dois payer 10% à l'église.
Ce la dîme, que... c'est incroyable. Putain, je savais même pas que ça s'appelait la dîme.
Ça s'appelle la dîme. Ce qui fait que les mormons et l'église.
C'est du nom de l'impôt. Tu l'as ou pas ?
De quoi ?
Moi, ça me parle parce que.
Il y a longtemps.
Ouais, du Moyen-Âge.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que les serfs payaient à leur seigneur.
C'est ça,
quoi.
En fait, tu rends un peu ce qu'on te.
Putain.
Ce qui appartient. Et en fait, ce qui fait que les mormons sont l'église la plus riche du monde. Parce qu'en fait, t'as tout le monde entier qui paye 10% de son salaire, ce qui permet de construire les églises. Etc. Et donc, moi, c'était ça mon premier. Je suis vraiment née de parents mormons, très très actifs dans l'église, etc.
C'est belle comme 10% quand même, quand on y réfléchit un peu, non ?
Bah oui, c'est beaucoup. Et du coup, nous, il y avait ce truc, c'est tous les débuts de mois, tu payes la dîme, et même quand on était petite. Tu vois, si tu fais un truc, je sais pas, du babysitting, n'importe quoi, où t'as gagné 10 €, ben tu dois donner 1 € à l'église. Et on a été inculqué dans ce truc de 10% pour l'église, dans tout.
Donc, même en tant que gamine, tes parents...
Ah ouais, parce qu'ils nous ont éduqués comme ça, tu vois, pour nous habituer, etc. Et oui, ben, t'as gagné, tu payes la dîme.
Ok, ouais. Donc ça, c'est...
c'est original.
Bah, écoute, bientôt 100 épisodes, histoire d'argent, je l'ai jamais eu.
Ah ouais, c'est sûr.
C'est nouveau.
Sûr. Mais je pense que je l'ai jamais raconté, ça.
Ok, donc effectivement, ça te... Ça marque quelque part, j'imagine, ton rapport à l'argent. Est-ce que dans l'idée de l'église mormone, il y a aussi un truc d'austérité, comme il peut y avoir par exemple chez les protestants ?
Non,
il y a
pas
ça.
Pas du tout. Au contraire, tu es encouragé à bien gagner ta vie quand tu es un homme. Quand tu es une femme, tu es encouragé à élever tes enfants.
Bien sûr.
Parce que justement, ça profite à tout le monde. Bah, en fait, ça profite déjà à ta famille et à l'église par extension.
Bien sûr. Ok. Tu sais que je reprends toujours les gens qui disent bien gagner leur vie dans ce podcast. C'est un peu ma, c'est vrai, c'est un peu j'ai ma entendu. Mission. Non, tu ne gagnes pas ta vie, tu gagnes de l'argent.
Oui.
Parce que ta vie, tu l'as.
Oui.
Et ça veut dire que si demain, tu n'as plus d'argent,
tu as toujours ta vie.
Voilà. Elle est toujours là.
C'est vrai.
C'est incroyable.
C'est vrai.
Ok, donc ça, c'est le. On va dire, c'est un peu le contexte dans lequel tu as été élevé.
Oui, et je me souviens d'un moment, je me souviens que mon père avait honte de son salaire aussi. Parce que mon père, à la base, il bossait à la poste. Donc, il avait un salaire au SMIC, un travail qu'il aimait pas, il faisait du tri postal, etc. Et un jour, l'église lui a proposé de le recruter. Parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans l'église, tu vois, que ce soit pour les constructions des églises ou... Bon, c'est très peu de gens, tu vois. Mmh. Et lui, il était dans la partie éducation. Donc, il formait à... à éduquer pour les jeunes, etc. Ils étaient 5 en France, je crois.
Ah ouais.
Et en fait, ça lui a un peu changé la vie, tu vois. D'un coup, il a eu un bon salaire, il a eu un salaire qu'il adorait, enfin un job qu'il adorait.
Le lapsus, c'est intéressant.
Et je me souviens qu'il avait honte de combien il gagnait, parce que j'ai un souvenir. Je devais avoir 14 ans. Mes parents ont fait construire une maison. Et un jour, pendant les travaux, ils invitent d'autres amis mormons à venir voir, tu vois, qui habitaient à côté de chez nous. Et je me rappelle de mon père. Donc les autres viennent voir. Et il y en a un qui dit ça gagne bien de bosser pour l'église. Et à partir de là, mon père, il a dit j'étais sûr qu'ils allaient penser ça, on fera plus venir personne. Et il avait honte du salaire qu'il avait, il voulait pas qu'on sache que l'église payait bien, en gros, quoi. Et j'ai ce souvenir.
Incroyable. Et donc ton père était plutôt dans un truc un peu. L'argent, c'est restreint, quoi. Faut faire en sorte de ne pas en dépenser
trop.
Oui,
c'est la personne, le moindre achat, il va passer 15 heures à chercher sur Internet le truc le moins cher possible. Et même, je me souviens, imagine, il cherche une télé. Il va acheter la télé la moins chère et après, il va continuer de regarder pour vérifier qu'il a vraiment bien acheté le truc le moins cher. Ouais, ça, je me souviens.
Il fait toujours ça aujourd'hui ou il s'est un peu détendu ?
Je sais pas, peut-être.
Ok.
Et moi, j'ai détesté ce truc et je pense que du coup, je fais l'inverse. Je fais que des achats impulsifs où je vais jamais rien comparer. Je fais que des coups de cœur. Je fais ok, je vois ça, c'est bon, je vais pas chercher.
Ok. Et ta mère, son rapport à l'argent ?
Ma mère a grandi à Madagascar. Donc, famille plutôt aisée pour Madagascar, mais pauvre en France. Elle était infirmière. Et on dépense pas non plus. Moi, je me rappelle, on faisait pas de sorties, peut-être une fois par an, un truc comme ça. Après, elle avait un côté un peu YOLO parfois, tu vois, sur Chantilly Biscuit. Elle m'a dit, c'est bon, on le fait, tu vois. Enfin, fais-le, on te prête de l'argent, mais mon père, il voulait pas, etc.
C'est eux qui t'ont prêté de l'argent au départ pour acheter les machines et
non,
tout.
Non, au début, ils ne voulaient pas me prêter de l'argent. Mon père, il n'y croyait pas du tout à Chantilly Biscuit au début. Il m'a rien prêté du tout jusqu'au moment où je me suis associée. Donc, 3 ans après le démarrage, et où on avait besoin d'un peu d'argent pour. On a besoin de 10 000 euros pour acheter une machine. Et en fait, on a fait une visio avec mes associés qui ont parlé à mon père. Et en fait, le fait qu'il y ait des mecs business, tu vois, qui s'associent avec moi, il a dit ok, c'est bon. Et après, on lui a remboursé, je pense, un an ou deux après, parce qu'on avait des prêts qui allaient arriver, mais qui n'étaient pas encore arrivés. On devait acheter la machine, tu vois. Donc, c'était une question de moi, je me souviens. Au début, il n'y croyait pas du tout. Mais il m'a déjà avancé de l'argent précédemment dans ma vie. Il m'avait avancé, je crois, 5 000 euros. Mais il m'a avancé, tu vois, je remboursais tous les mois la BRL Bank.
Comment tu vivais le fait que ton père était en train de un peu dénigrer ton projet et finalement ne pas y croire et a même fini par te donner de l'argent une fois qu'il y avait des mecs en costard avec toi, quoi?
Mais je pense que j'y croyais pas moi-même. Enfin, j'y croyais, je trouvais l'idée géniale, mais c'était tellement inimaginable de faire une vraie entreprise que je comprenais. Mais il y avait quand même un truc de... je me disais, ça va, tu vois. Ça va, t'as l'argent. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu gagnes de l'argent dans ta vie. Pourquoi? Pour qu'il dorme sur un compte. Moi, il y avait un truc de... on épargne, tu vois, on met de côté. Mais à un moment donné, tu vis pour le dépenser aussi, tu vois, l'argent.
Bah, pas ton père, j'imagine.
Non, pas mon père. Mmh. Mais là, ils se sont un peu plus lâchés là, quand ils ont été. Quand mes sœurs et tout étaient grandes et que tout le monde avait son appart et tout le monde était sécurisé, là, ils commençaient à voyager, etc. Bon, après, je suis pas très proche, donc je sais pas trop tout ce qu'ils font, mais. Mmh. Mais oui, au début, c'était vraiment le truc de. On met de côté au cas où, quoi. Le au cas où. Et on dépense pas trop, tout est cher.
Ok. Et donc, toi, t'as baigné là-dedans?
Ouais.
Globalement, c'est un peu les phrases que tu as entendues, tout est cher.
Oui.
Et en fait, quand tu montes cette boîte, comment dire, comment ta relation à l'argent, à ce moment-là, vient impacter la relation à ta boîte? Mais... Tu achètes des machines, parce qu'en plus, tu as du matos à acheter. Hein,
ouais.
T'es pas...
ouais.
Comment tu vis ces investissements? Comment tu vis cet argent dépensé là.
Bah, c'est marrant parce que j'ai jamais réfléchi à ça. Et en parlant, je me dis, je pense que j'avais fait comme lui, où j'avais énormément de côté sur la boîte. Enfin, énormément. On a toujours eu une grosse trésor. J'ai jamais été en galère en me disant, j'ai plus beaucoup sur le compte, etc. Et j'osais pas dépenser. Je dépensais pour les trucs vraiment utiles, tu vois, les farines et tout. Mais si on devait faire une OP ou un truc, je regardais toujours le montant qu'on avait. Et même si le montant qu'on avait sur le compte, il grandissait toujours. Et ben en fait, je le dépensais pas plus, quoi. Après, au début, quand je gérais toute seule, j'avais toujours, tu sais, t'as l'URSSAF qui tombe à un moment donné, t'as un problème de machine, il faut lâcher un gros chèque, donc c'était bien aussi. Mais là, j'avais ce truc de il faut de côté, quoi, alors que j'aurais pu me payer, etc. Mais à la fin, ça a quand même changé, et justement, je me disais, attends, mais on n'a pas levé des fonds pour que ça dorme sur un compte, à un moment donné, on a tout cet argent.
T'as levé combien?
J'ai jamais dit le montant. Okay. J'ai moins de 1 million. En fait, j'ai levé pour financer l'usine. Okay. Parce que la banque ne me suivait pas.
Ok. Pour les gens qui ne l'ont pas, tu es allé chercher des investisseurs.
Exactement.
À qui tu as donné une part de ton,
exactement,
de ta boîte.
Des actions.
Ouais. Et ces actionnaires-là ont récupéré de l'argent une fois que tu as vendu, quoi. C'est ça. Ok. Et en fait, cet argent-là, tu l'avais sur ton compte en banque à un moment donné, mais juste c'était important de pas y toucher, quoi.
Ouais, j'osais pas. Après, quand j'ai pris un DG, c'était lui qui gérait la partie finance de la boîte. J'étais bien contente. Donc là, tout a été bien cadré. Tu vois, il sait combien part aux impôts, la TVA, blablabla. Il a la vision de tous les chiffres précis, tout est calculé. Mais il y avait toujours ce truc de il faut de la trésor de côté, il faut pas dépenser. Et franchement, c'était un sujet de débat constant. Je me disais, mais attends, on a l'argent, il faut qu'on fasse des trucs, quoi. Enfin...
Ah, donc tu avais recruté un DG qui était dans la même mouvance que toi, quoi.
Ouais. Après, il
qui
avait un bon
père.
Côté qui était vraiment. N'allons pas jusqu'à.
Non, mais en tout cas, il avait le même état d'esprit.
Oui.
Il avait la même relation à l'argent. Tu aurais pu trouver un DG qui était en mode ok, il y a tout cet argent-là. En fait, en vrai, pour
oui,
les gens...
Ça, c'était plus mon DAF que j'ai pris après et j'ai adoré.
Pour les gens qui ne l'ont pas, en fait, tout l'argent qui dort sur ta boîte, il y a un truc qui dit, en fait, fais gaffe parce que c'est de l'argent que tu n'es pas en train d'utiliser, que tu n'es pas en train d'utiliser pour faire grandir la boîte.
Bah oui, alors qu'on pourrait
dans
même en
capitalisme.
Gagner... Non, mais puis même faire des trucs, enfin, à un moment donné. Et il y avait vraiment... Après, là où il était très bon, c'est qu'en fait, tout était vraiment optimisé, tu vois, tous les achats calculés, on va négocier, enfin bref, donc on avait... On gagnait encore plus d'argent parce qu'on faisait de meilleures marges. Tu avais
trouvé un gestionnaire, un
DG
gestionnaire.
Exactement,
en fait.
Mais c'était, dès qu'il fallait faire un truc et tout, la bataille, quoi. Bon, je dis, attends, t'as vu combien on a sur le compte? Oui, mais chantilly, attends, on va pas dépenser pour ça, etc.
Mais ça te rassurait pas, quelque part?
Ah si, ça me rassurait.
Ah,
bah,
ah oui. Mais donc, dis pas la bataille.
Non, mais la bataille, dès qu'il fallait dépenser un peu. En fait, ça me rassurait que tout soit cadré, calculé, etc. Mmh. Mais ça m'énervait qu'en fait, il n'y ait pas quand même une partie qu'on dépense, tu vois, pour tester des trucs, sans dire ça doit rapporter de l'argent, mais pour faire des trucs pour la boîte, quoi.
Bah, tu t'es fait prendre ton propre piège.
Bah ouais.
Non, mais c'est vrai.
Après, quand il est parti, que j'ai récupéré, que j'ai pris donc un DAF qui était en externe, mais qui était quand même mon DAF. Là, c'était différent. Là, on était plus dans le truc sans tout cramer non plus. Hein. On calculait, mais voilà, s'il fallait sortir de l'argent, on le sortait. Mais vraiment, il me disait,
oui, mais le DAF,
j'avais la vision.
Le DAF, il est pas DG à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a toute la main mise sur la boîte. Il vient pour te conseiller, pour le coup, pour gérer et pour t'aider à gérer et pour te dire, bon, bah voilà, là, il y a cet argent disponible et tout. C'est pas du tout pareil.
Non. Après, c'est sûr que quand j'ai vendu la trésor, elle jouait aussi dans le prix de vente.
Ouais.
Donc j'étais aussi contente d'avoir beaucoup de trésor à ce moment-là. c'est sûr. Et j'ai toujours eu la tranquillité d'esprit de me dire, en fait, la boîte n'est pas à risque. Donc ça, je suis contente aussi de me dire, il n'y a pas eu ce moment où je me dis, OK, dans 3 mois, on n'a plus de cash, on ne peut plus payer les salaires. Et je vois des copines qui sont dans cet état où tu te dis, OK, potentiellement, le mois prochain, la boîte, elle ferme. J'ai jamais eu ça. J'ai toujours été tranquille.
T'avais combien de mois de trésor d'avance?
En année, hein.
Ah oui. En année.
Mais en tout cas, quand il y a eu le Covid et qu'on a mis la boîte en pause,
ouais,
j'étais pas stressée. Là, c'était bien. Là, c'était bien.
Ouais, ouais. Mais moi, j'ai eu jusqu'à 6 mois de.
Après, je sais plus. Hein, mais on avait. Je veux pas dire le montant, mais on avait. Je sais pas combien on dépensait, mais on avait. Non, pas en année. Hein. Ouais, je pense qu'on avait un an. Ouais, bien un an de trésor. Bien un an de trésor.
Pas mal.
Ouais.
En vrai. Et tout cet argent-là, t'aurais pu. Alors, effectivement, tu l'as.
Après, à la fin, il a été valorisé. Enfin,
tu l'as gagné d'une manière ou d'une autre. Mais c'est sûr que pendant toutes ces années-là, tu l'as pas pris dans ta poche, quoi.
Non.
Ouais. Ok.
Je pense qu'après ça, plus personne va investir chez moi si je remonte une boîte.
Mais non, parce que j'ai
l'impression. Au contraire, j'ai appris.
Voilà, j'ai l'impression que t'as appris plein de choses. Je me demandais à quel point t'avais appris aussi ta valeur à travers. Donc, ta valeur dans la boîte. À travers l'argent que tu finissais par te payer. Parce que tu disais qu'au départ, tu avais le syndrome de l'imposteur, ton père te dit, ton truc marchera jamais. Enfin, je peux comprendre à quel point tu te dis, bon, bah, ce truc-là, c'est juste pour faire mumus, quoi, tu vois, je vais tester, quoi. Et au final, tu te rends compte que ta boîte marche. C'est une surprise pour toi au fil de l'eau ?
Un peu.
Ok. Et tu te rends compte aussi que, bah, en vrai, ce. Se payer, c'est quand même vachement bien, quoi. Je me demandais à quel point... En tout cas, je me demandais s'il y avait eu des déclics pour toi, particuliers. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, au-delà du fait de, OK, si demain la boîte s'arrête, peut-être j'ai plus rien, quoi. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience pour toi ? Est-ce qu'il y a eu des discussions ? C'est quoi, en fait, à quel moment tu t'es rendu compte aussi de la valeur que tu avais par rapport à la boîte et que peut-être ça méritait de te payer, toi ?
Ouais, je pense que j'ai eu 2 déclics. J'ai eu un premier déclic en 2018. J'ai été récompensée par Veuve Clicquot pour mon parcours entrepreneurial. Et là, je me suis dit, OK, je suis légitime, je suis à ma place en tant que dirigeante, etc. Je suis récompensée, je suis reconnue. Mais je ne l'ai pas retranscrit en argent, forcément. Et en fait, c'est quand mon DG est parti où je me suis dit... En fait, je pensais que la boîte tenait grâce à lui, etc. Et que tout allait s'écrouler, que j'allais jamais réussir. Il est parti et ça tenait toujours. Et en fait, je me suis dit... Mais... Et en fait, je me suis fait coacher à ce moment-là, etc. Où j'ai pris conscience, en fait, c'était ma boîte, c'était moi le moteur. Évidemment, l'équipe est importante, etc. Mais je savais faire. J'étais à ma place, vraiment. Et je méritais... d'avoir un salaire en conséquence. Et aussi, c'était devenu difficile. En fait, c'était l'accumulation de fatigue, de stress, de charge mentale, où là, je me disais, je veux aussi une sécurité perso maintenant. La boîte n'est pas toute ma vie. Je veux pouvoir voyager à côté. Je veux pas passer tout mon temps dans Chantilly Biscuit. Et j'aime payer des super voyages, tu vois. Donc, je veux pouvoir aussi profiter de la vie à côté. Et que tout ce que j'ai fait pour Chantilly Biscuit, à un moment donné, me serve à moi, et je ne suis pas Chantilly Biscuit. Et c'était ça, mais ça, c'était assez récent, hein. C'est 2022.
Ah ouais, donc t'as, pendant 10 piges...
Et je pense, franchement, je t'ai coupé, à partir de... Pendant longtemps, j'ai pas vraiment pris de vacances, non plus. Et quand j'ai commencé à en prendre, on va dire 2022, j'ai fait mon voyage de rêve, qui était un safari à cheval au Botswana. Qui m'a coûté 10 000 balles. Et là, je me suis dit, en fait, j'adore ça. Et je veux pouvoir aussi me payer, enfin, réaliser des choses qui coûtent cher. Et je peux le faire avec tout ce que j'ai travaillé de Chantilly Biscuit. Et autant que j'en profite aussi, c'est ça qui me fait kiffer dans la vie. C'est pas que Chantilly Biscuit. Et je travaille pour ça. Donc, j'ai envie d'avoir plus d'argent que je peux avoir et que je mérite.
Tu veux dire que peut-être 3-4 ans avant, tu aurais été incapable de te payer ce safari ?
J'avais pas l'argent, c'est sûr, ouais. Ah oui, mais enfin,
Si t'avais potentiellement l'argent, t'aurais pu te verser une.
Ah oui.
T'aurais pu te verser 10 000 balles pour. Sans aucun problème, j'imagine.
Ah
pour...
oui, on avait l'argent, mais je l'aurais pas fait, oui, c'est sûr.
Et qu'est-ce qui t'empêchait de le faire ?
Je disais, la boîte est plus importante, je mérite pas cet argent, je vais devoir... Mon DG, il va pas vouloir.
Rappelons que c'était... T'étais toujours l'actionnaire principal de cette boîte. Hein. Tu pouvais décider de...
Bien sûr.
Ce que tu voulais.
Et je pense qu'il y avait un rapport à mes salariés aussi, où je m'identifiais beaucoup à mes salariés. Donc j'avais des salariés en prod qui étaient un peu plus cosmiques et qui étaient un peu moi au début de Scientifique, même moi dans ma boîte d'avant, tu vois. Et il y avait un côté où je me disais... Alors je mérite, parce que tu vois, j'ai plus de charge mentale, je travaille plus, etc. J'ai plus de risques. Mais la différence par rapport à eux aussi peut-être me gêne, je sais pas, tu vois.
Ah, tu voulais pas qu'il y ait un trop gros écart entre tes salariés et toi ?
Ouais, je pense. Je pense que ça a joué. En fait, aussi mon rapport à eux, tu vois. Je me dis, en fait, c'est des super personnes et tout, tu vois.
Ouais.
Pourquoi moi j'ai plus ? Enfin, je mérite plus aussi, tu vois, parce que la responsabilité. Mais forcément, il y avait ça aussi.
Mais
quoi.
C'est trop intéressant que tu parles de charge mentale, de stress et tout, parce que eux, quand ils rentrent le soir.
Ah mais bien sûr.
Ils sont tranquillous, ils peuvent vivre leur vie, quoi.
Bien sûr, alors moi tu me dis 35 heures, c'est des vacances, hein. Enfin... c'est sûr.
Et ça, pour toi, ça ne valait pas. T'encaissais, en fait. T'étais capable d'encaisser.
Ouais, et puis c'était pas vraiment un sujet, tu vois. Mais c'est vraiment, je pense, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des vacances et à avoir besoin de vacances et de m'aérer, de prendre soin de moi, de mon bien-être et tout. Je me dis là, j'ai besoin parfois de prendre un week-end, je mets dans un hôtel, je pense à rien et tout, et je veux avoir l'argent sur mon compte pour pouvoir le faire quand j'ai besoin, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que ça t'a mis 10 piges, quoi.
Ouais, bah oui.
Oui, parce qu'effectivement, tu dis qu'en 2018-2019, là, t'as eu ces récompenses et tout, ouais. Et que ça t'a valorisé, toi, que l'extérieur, à un moment donné, ouais. Venait de dire. Tu es légitime, tout à fait.
Oui.
Mais qu'en fait, t'as pas fait suivre ça
non.
par de l'argent.
Non, pas du tout. Après, si on remet aussi par rapport à mes parents, il y avait ce truc aussi de dépenser 10 000 balles pour une semaine de vacances. Mais jamais de la vie. Alors que c'était mon rêve, j'attendais depuis 17 ans, je voulais faire ce voyage, tu vois.
Ah enfin, ouais.
Depuis que j'avais 17 ans.
Donc tu savais, tu l'avais en tête.
Je l'avais en tête, j'avais le voyage exact. Et en fait, je me souviens, j'avais eu un petit catalogue de voyages à cheval, bref. Et je l'avais sur mon bureau et pendant des années, je me suis dit, grâce à Chantibiscuit, un jour je ferai ça. Donc j'avais le truc précis. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, je vais le faire avec quelqu'un. Parce que je trouvais que c'était plus sympa de partir à deux, tu partages un truc et tout. Et donc, j'ai attendu, plus ça coûtait super cher, etc.
Alors, l'argent, j'ai l'impression que assez rapidement, t'aurais pu te le payer, en vrai.
Si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu. Oui, oui, oui. Et en fait,
c'est très cher,
l'argent, mais... en fait, ça me sert à ça, je vis pour ça, quoi.
Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça ?
Mais je pense que c'est quand je l'ai fait, le voyage aussi.
Ah, c'est le voyage qui... Non, parce qu'en vrai, il faut d'abord prendre la décision et te dire...
Je pense que c'est comme mon DG est parti, en vrai.
Ouais.
Ça me fait péter plein de choses de me dire, en fait, la boîte est toujours là. Mes salariés sont toujours là. Tout se passe bien. Je gère. Je comprends comment ça marche. Je mérite, en fait.
Depuis le départ.
Le même salaire, voire plus. Donc,
ok. Voilà.
Et la boîte tient toujours, voilà. Et même quand on a fait signer du coup aux investisseurs, je me souviens dans une discussion avec sur un autre sujet, le sujet de mon salaire était revenu et il disait effectivement que je me payais pas du tout beaucoup. Mmh.
C'est un vrai warning, c'est un vrai avertissement pour les investisseurs aussi de voir que.
Eh oui. Si tu te mets en danger toi, c'est dangereux pour la
patron.
Boîte.
Puis c'est surtout en fait, mais aujourd'hui moi je m'en rends compte, c'est que ça permet de valoriser tout le reste.
Ah oui.
À partir du moment où tu te payes. Et il y a un vrai truc aussi, je trouve, auquel on ne réfléchit pas assez, ou en tout cas auquel je ne réfléchissais pas assez à l'époque, c'est que moins tu as d'argent au trésor, plus tu vas te sortir les doigts.
Ah, bien sûr.
Et en fait, si cet argent-là, tu le redistribues d'une manière générale dans la boîte, mais aussi à ta pomme en premier, parce que pour moi, c'est hyper important. Il y a tout un truc où il y a un peu, genre, ouais, les bons patrons... Ils se servent en dernier, etc. Putain, mais en fait, ça, je suis revenu de ça vraiment parce que ça, comme tu dis, en fait, le stress, la charge mentale, toutes ces conneries-là.
Si moi, je suis pas allé en prison. Hein. Imagine, il y a quelqu'un qui a une intoxication alimentaire de Chantibiscuit, c'est moi qui prends. C'est pas eux. Hein. Eux, ils sont tranquilles. En plus, boîte très très incarnée, tout le monde associe Chantibiscuit à moi. Donc, le moindre bad buzz, c'est Chantibiscuit. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai vendu la boîte, j'ai voulu annoncer haut et fort que c'était plus moi, je me dis, si jamais il se passe un truc dans la boîte, si jamais il y a un scandale ou j'en sais rien, tu vois, ce n'est pas arrivé, mais je veux que les gens dissocient vraiment Chantilly. Oui, genre, ce n'est plus moi. Voilà.
Oh, ça tourne encore pour quelques années, hein, crois-moi. Ouais, je continue à recevoir des messages de gens qui me parlent de Mademoiselle, quoi, tu vois.
Ouais, je suis pas étonné.
Je suis désolé, les gars, je ne suis plus pour rien. Ouais. Adieu, au revoir. Bye bye. Ok, tu te retrouves maintenant avec tout cet argent. Donc, si j'ai bien compris, entre 1 et 5 millions.
Ça, c'est le montant de la vente, donc tu enlèves un peu, mais oui, oui.
Oui, oui, oui.
Je peux dire que je suis millionnaire avant impôt. Voilà. Ça vous donne une fourchette. Après, je ne le serai plus.
Ça va bien se passer.
Mais je m'en fous.
T'es à l'aise avec ?
De ?
Le fait de plus être millionnaire. Enfin, tu vois, t'as un peu ce truc de...
Ah oui, non, je m'en fous complètement.
Non, mais c'est un tel... c'est un tel miroir aux alouettes, je trouve. Ouais. Tu vois, ce truc de... Je veux être millionnaire.
Ah non, mais je... En fait, c'est genre ça, pour moi, ça... C'est tellement impossible... Et ça, il y a un côté, j'ai fait l'impossible. Enfin, tu vois, c'était inimaginable, quoi. C'était plus ça, en
Pourquoi
fait.
Pourquoi c'était impossible ? Dans ta famille, tu veux dire ? Dans,
ouais,
dans
bah,
la culture ?
Moi, je suis personne n'est riche dans ma famille.
Personne n'est riche, c'est ça ?
Ouais.
Ouais.
Je pense que du côté de mon père est celui qui gagne le mieux sa vie. Mmh. Du côté de ma mère, elle a une très grande famille, je les connais pas tous, mais je pense... J'en sais rien, en fait, du côté de ma mère.
Mmh.
Et puis, voilà, moi, j'ai pas fait d'études, j'étais au SMIC, je savais pas ce que je voulais faire. Chantilly Biscuit, ça a marché petit à petit, mais jamais j'avais cet objectif et jamais je me serais dit je serais plus riche que mes parents. Enfin, c'était incroyable.
Tu sais qu'il y a... On parle beaucoup de déloyauté dans ce podcast, c'est-à-dire qu'il y a un vrai truc de loyauté aussi par rapport aux parents, par rapport à l'argent, de réussir à gagner plus d'argent qu'eux. En fait, c'est le genre de barrière mentale que tu peux te mettre dans la tête, inconsciente bien sûr, de te dire en fait c'est un vrai, c'est limite, on appelle ça une déloyauté quoi, tu vois, tu finis par avoir une forme de loyauté par rapport à tes parents, par rapport au fait de pas gagner plus d'argent qu'eux parce que bah tu veux respecter
oui,
aussi quelque part.
Faux respect.
Ouais, c'est ça, d'où ils viennent et que ça nécessite tout un travail de déloyauté. De te dire, ok, bah, en fait, je gagne plus d'argent, j'ai envie de gagner plus d'argent que mes parents, je vais finir par gagner plus d'argent. Ça veut pas dire que tu les aimes pas, que tu les aimes moins. Ça veut juste te dire, c'est leur histoire.
Oui.
Et mon histoire à moi, elle va être différente.
Oui.
T'es à l'aise aujourd'hui avec le fait d'avoir tout cet argent et de gagner beaucoup plus d'argent que tes parents ?
Ah oui, complètement. Et je sais que mes parents sont contents pour moi. Enfin, tu vois, donc je sais que tout le monde est content dans l'histoire.
Ton père, ça y est, tu sens une forme de respect par rapport au fait que t'es vendu la boîte et que t'as gagné...
Alors, je suis plus du tout proche de mes parents. Hein. Mais oui, c'était... Mais même à partir du moment où j'ai eu l'usine, etc., c'était déjà fou, tu vois. Donc, à partir de là, tout était juste de plus en plus fou.
Ok.
C'était pas juste l'argent, mais c'est sûr que...
On est bien d'accord que t'es sorti de l'église mormone, que tu vas pas donner
10%... Oui, non. Je suis sorti de très longtemps.
Non, mais ça marque.
Ah non, même en fait, ça, j'y ai repensé en préparant le podcast. Mais alors, ça m'a pas traversé l'esprit du tout. Du tout.
Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Est-ce que tu es à l'aise avec cet argent aujourd'hui ? J'ai reçu des. J'aurais dû t'envoyer notamment cet épisode avec Sébastien qui a vendu sa boîte. Alors lui, il donne pas le chiffre parce qu'il a pas le droit, mais une somme à 8 chiffres. Il a récupéré dans sa poche une somme à 8 chiffres.
Ouais, c'est vrai.
Donc, beaucoup d'argent, plus de 10 millions d'euros. Et il racontait qu'il avait... C'était compliqué pour lui parce qu'il n'arrivait pas à toucher à cet argent. Je vous invite à aller écouter cet épisode. D'ailleurs, je vous mettrai des notes, hein, si vous voulez, un lien dans les notes. Je l'ai revu là, il n'y a pas très longtemps. Ça y est, il a compris.
Il est en train de...
c'est pas qu'il n'a plus rien, c'est juste qu'il a décidé de... Parce que là, il travaillait, il se crevait la vie. À vouloir en gros facturer pour réussir à,
C'est fou.
À venir.
J'écouterai l'épisode.
Pas aller toucher à son capital. Tu vois, c'était son trésor et en fait, il parlait d'un bloc. Il parlait d'un bloc qui était hyper encombrant.
Ah, c'est ouf.
Et en gros, il raconte ok, bah, j'ai acheté un appart. J'ai acheté un appart dans Paris, 1 million d'euros. Ce qui est énorme, c'est une somme incroyable.
Mais il en
reste
encore,
il dit j'en ai encore tellement, je sais pas quoi en faire, quoi. Ouais. Donc en fait, il avait envie de l'investir. Et en fait, finalement, ces investissements, c'était aussi une façon de s'occuper, certes, mais aussi une façon de se débarrasser un peu de cet argent, quoi, tu vois. Très encombrant. Là, il, franchement, sa life, épisode 2, deux ans plus tard, le mec a compris, quoi. Il est en train de devenir, il veut devenir joueur pro de Street Fighter.
Génial. Mais ouais, bref, il a live your dream.
Exactement. Comment tu vis, toi, cet argent-là que tu as sur ton compte et dont tu vas te délester d'un gros tiers bientôt, mais certes. Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment tu le perçois?
Je pense qu'au début, je n'avais pas trop quoi en faire, dans le sens où je suis contente, mais je ne suis pas contente. Je suis contente d'avoir vendu, mais en fait, tu as plein d'émotions pendant la vente. Enfin, tu vois, c'est la boîte que tu quittes, en même temps, les rêves que tu quittes.
Les rêves que tu quittes?
Les rêves de Chantilly Biscuit. Parce que j'avais aussi plein de choses que je voulais faire avec Chantilly Biscuit que je n'ai pas fait, enfin, parce que je suis partie. Donc, il y avait plein d'émotions et forcément, c'est l'argent, quand je vois, c'est, bah, l'argent, il représente tout ça un peu, quoi. J'avais pas un investissement ou un achat que j'avais absolument envie de faire. Donc, je m'étais pas dit direct avec cet argent, je vais faire ça. J'ai pas acheté de maison, d'appart, du tout. Parce que je sais pas où j'ai envie de vivre. Et j'ai pas envie de. J'ai un peu la phobie administrative et des travaux. Je me dis, en fait, c'est que des problèmes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes pour l'instant. Je veux que la tranquillité d'esprit. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je suis partie pour partir et je suis pas partie pour monter autre chose parce que j'avais une autre idée. Donc, même je suis partie un peu à l'arrache dans le sens où j'ai pas. Créer une société pour économiser, etc. Oui, optimiser les impôts, bref, pas du tout.
T'aurais pu créer une holding.
On l'aurait fait trop tard, ça marchait pas. Enfin, bref. J'ai dit, non, mais laissez-moi tranquille, on fait le truc et on verra. Et alors,
qu'est-ce que t'as acheté avec cet argent qui t'a fait plaisir?
Alors là, ça y est, je suis en train de m'acheter un gros cadeau. Gros quand même. Je m'achète une selle pour monter à cheval. Donc, tout compris avec les accessoires et tout, c'est à peu près 4000 euros. Voilà. Donc, c'est mon cadeau à moi-même. Sinon, j'ai avancé de l'argent à une copine qui était en galère. Tu vois, donc, je suis contente aussi de pouvoir aider d'autres personnes. J'ai offert aussi... offert. Oui, on peut dire ça. En fait, il y a une mamie avec qui j'étais très copine depuis des années, que j'avais rencontrée dans un centre équestre. Enfin, bref. Très très marrante que je vois souvent et je l'aime beaucoup. C'est vraiment une personne qui est très dévouée à ses enfants, qui a pas beaucoup d'argent, et je l'ai vue il y a pas longtemps, peut-être 2 mois, un truc comme ça, et elle me disait que sa voiture était en panne et qu'elle avait pas l'argent, etc. Et je lui dis, je te l'offre, quoi, combien tu veux? Elle m'a dit, ah, bah, là, il me manque 3000 euros. Bah, je lui ai fait vraiment 3000 euros et je suis contente d'avoir pu faire ça, tu vois, d'être capable en fait de pouvoir aider des personnes que j'aime et qui me le demandent même pas en fait. Et moi je m'en fiche en fait. 3000 euros, ça me change pas ma vie, ça lui change sa vie. Voilà, mais c'est mes grosses dépenses. Après, en fait, j'ai un peu augmenté mon niveau de vie, mon quotidien, tu vois. Donc, je me suis remise à faire du cheval. Et tu vois, je prends des cours particuliers en semaine. Donc, je fais, tu vois, là, zéro frustration, zéro limite. Si je veux aller au resto, je vais au resto. Si je veux m'acheter un café, je vais m'acheter un café. Enfin, après, je suis pas une grosse dépensière.
Tu vas t'acheter un café, non, mais tu vois,
en fait, tous les trucs du quotidien, en fait, c'est mes petits trucs du quotidien qui augmentent. Ouais. Après, je suis pas une dépensière, tu vois, j'ai pas envie de m'acheter des sacs, j'ai pas envie de m'acheter des meubles. Mais par contre, si je veux me faire un voyage, je vais me faire un super voyage. Si je viens à Paris, je me prends un meilleur hôtel que ce que je prenais avant, je réfléchis moins. Mais je regarde quand même le prix. Je regarde toujours le prix. J'ai des barrières psychologiques de prix, de montant que j'ai pas envie de mettre sur certains trucs. Mais il y a toujours ce truc de j'ai que de l'argent qui sort, j'ai pas d'argent qui rentre. Et à un moment donné, je me dis, tant que j'ai pas d'argent qui rentre, il faut que je tienne.
Même si je tienne.
Enfin, même si je peux tenir, tu vois. Mais oui. Je me dis, ça se trouve, ça va durer 3 ans. Je sais pas.
En fait,
après, je me connais, je pense pas. Mais...
À ton rythme, oui. Alors déjà, si moi, je lis ta newsletter. Toutes les semaines, il y a une nouvelle idée.
Une
nouvelle idée de business. Mais en même temps, c'est normal. Je trouve que tu viens de sortir de
10
piges de...
Non, et puis je suis cramé mentalement.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est important de laisser, tu sais, la terre reposer. Tu sais, t'imagines, tu prends une bouteille pleine de terre et de l'eau, là. Tu secoues fort pendant 10 piges. À un moment donné, il faut laisser reposer.
Ah, mais là, je suis dans ça. Et je me suis dit, si j'investis dans un truc, c'est plus dans moi, dans thérapie, coaching, apprentissage de choses. Tu vois, genre là, on m'a proposé de faire une conférence en juin. Ben, je trouve un super coach. Il m'a dit son tarif. Je m'en fiche, tu vois, c'est bon. Je viens, super fini avec le mec. Peu importe, je compte pas le nombre de séances. Il me fera sa facture, je paierai la facture. Je suis très contente. Mmh. Ça m'aide grave, je kiffe. Je sens que moi, ça me fait avancer, ça me fait réfléchir, ça me stimule. C'est ça que. Et là, je limite pas de montant, tu vois. Enfin, je vais pas tout claquer non plus, mais c'est ça que j'ai envie d'investir dans moi plus que dans un projet ou dans une maison, quoi.
Ok. Parce que, avec cet argent-là, vu ton rythme de vie, j'ai l'impression que tu peux tenir plusieurs années. Tu peux tenir longtemps.
Oui, sauf si je me fais des voyages à 10 000 balles la semaine, tous les deux mois. Ce qui n'est pas le cas.
Ouais, tu le feras jamais.
Non, mais je peux le faire une ou deux fois par an.
Oui.
Ouais.
Et vivre sur cet argent pendant des plombes.
Oui. Après, je me connais, j'ai besoin de faire.
Non, je te parle pas, je te dis pas que tu vas pas le faire. Je te dis juste qu'en fait, t'as cette sécurité-là.
Oui, oui, oui.
Des années.
Oui, oui. Ah oui, là, je me sens pas stressée.
Oui.
Je me sens pas stressée. Mais juste, c'est sûr que y a quand même ce truc de il y a que de l'argent qui sort.
Donc, t'es stressée. Non, mais c'est important de le regarder.
Ouais.
Depuis tout à l'heure, tu me dis il y a que l'argent qui sort.
Ouais.
Ok. En fait, cet argent-là, tu peux le laisser sortir pendant des plombes.
Mais
et vivre sereinement avec.
Oui. Et c'est sûr que je pense que demain, je me dis en fait, j'ai de l'argent régulier qui rentre. Là, je peux vraiment me lâcher et me faire des gros délires, peut-être.
Mais tu pourrais déjà te le faire aujourd'hui.
Oui.
Attends, j'essaie juste de te faire prendre conscience.
Je fais comme la trésor de la boîte.
Mais oui, c'est ça. J'essaie de te faire prendre conscience qu'en fait, cet argent-là, aujourd'hui, tu peux effectivement peut-être pas te faire un voyage. Et encore, si, tu pourrais juste te faire un voyage à 10 000 balles toutes les deux semaines. Sauf qu'en fait, tu vivrais peut-être moins longtemps sur cet argent-là.
Oui. Ah oui, je pourrais. C'est
oui,
sûr.
Bien
ouais.
sûr.
Ouais.
Et en fait, je me demandais, est-ce que ces idées de boîte que tu mets dans ta newsletter, c'est pour le fun. Alors ça, j'ai bien compris que c'était pour le fun. C'est pour l'exercice intellectuel aussi qui est intéressant. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une forme d'appréhension de « il faut que je trouve quelque chose à faire derrière »
Alors, je pense... Alors, quand j'ai fait ces newsletters, c'était en fin décembre, début janvier. Et je pense que j'avais aussi besoin slash envie de montrer aux gens qu'en fait, ce que j'avais fait sur Chantier Biscuit, je pouvais le faire sur un autre business. En fait, j'avais fait des newsletters où sur une semaine, j'imaginais un business... par exemple, j'avais une idée de business de bague de fiançailles et je disais alors là, ce serait ça la com, ce serait ça qu'on vendrait, etc. Et je montrais ma réflexion et que je savais réfléchir et qu'en fait, Chantier Biscuit, c'était pas un coup de chance. Et après,
ah, c'était ça vis-à-vis. Ah, je ouais, pense
qu'il y avait,
pour ça.
Je pense qu'il y avait sur un niveau, c'était peut-être ça aussi. Après, j'adore. En fait, j'avais eu l'idée, je l'ai pas pensé comme ça, mais après coup, quand j'ai eu les messages des gens, je me suis dit ah bah là, c'est bon, ils ont vu. Alors qu'en fait, ça m'a fait kiffer. Hein. Et j'aime cette partie réflexion, alors comment on ferait, quelles idées on pourrait faire et tout.
T'as pas confiance en ta créativité? Parce que pour moi, c'est ta plus grande force. Hein.
Oui, mais en fait, il y avait un côté où, oui, est-ce que je peux le refaire en dehors de Chantier Biscuit? Chantier Biscuit, c'était mon terrain de jeu. Mais oui, en fait, c'est sûr que je me rends compte maintenant là, que j'ai plein d'idées sur d'autres trucs et des trucs que j'ai fait de Chantier Biscuit. Que j'arrive à mettre sur d'autres domaines et je me rends compte que ça je pars avec, j'ai pas laissé dans la boîte.
Mais c'est
je pars
sûr.
Avec mon âme.
Sans deck. En revanche, tu réponds pas à la question de
qui était déjà.
Est-ce que tu fais ça aussi, est-ce qu'il y a une partie de toi qui fait ça aussi pour retrouver une possibilité de faire rentrer de l'argent?
Non, parce qu'en fait, si j'avais besoin de faire rentrer de l'argent, je pourrais, parce qu'en retour de ma newsletter, j'ai souvent des gens qui me disent je peux te prendre en consulting, en coaching sur des sujets, etc. Et si j'avais envie de gagner de l'argent, je pourrais dire oui.
Ok.
Mais j'ai pas envie. Et là, de toute façon, je m'étais dit, cette année, je m'oblige à rien.
Ok.
S'il y a un projet qui me fait kiffer, comme la conférence en juin, j'y vais. Mais sinon, je dis non à tout. Enfin, je me force à rien. Et je prends soin de moi en priorité et j'ai aucun problème à dire non aux gens parce que je leur explique pourquoi.
Trop bien.
Et les gens comprennent. Ça de.
Mais alors pourquoi tu m'as dit trois fois qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait?
Mais oui.
Non mais rends-toi compte.
Oui.
C'est que
je pourrais si je voulais.
Ton état d'esprit est incroyable. Mais ça fait trois fois que tu me dis qu'il n'y a pas d'argent qui rentre.
Ouais. Mais ça c'est vrai que c'est qu'au moment où je dépense ou je dois sortir des relativement gros montants.
Gros montant, désolé, mais si le plus gros montant que t'as fait, c'est de t'acheter une selle à 4000 euros,
oui.
Ça va.
Oui, 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 ça va.
Ça va.
Oui, 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 non, mais c'est sûr.
C'est par rapport à 10 piges à trimer comme une tarée, Et certes, ah oui. 4 000 euros, c'est beaucoup d'argent oui. dans l'absolu, parce que oui. c'est beaucoup d'argent oui. et c'est une selle à 4 000 euros. J'imagine oui. que tu as sans doute des selles moins chères
oui.
et que c'est un kiff que tu te fais. Mm. Mais t'as bossé pendant 10 piges pour ça. Mm.
Ah donc, oui, complètement. Donc, et puis en plus, c'est mon ouf. Rêve, tu vois, de monter à cheval, j'adore. Ah
bah, donc voilà.
Bref, c'est au zéro sujet, quoi.
Et donc, c'est le plus gros achat que tu t'es fait.
Ouais.
C'est pas... Tu te rends compte que c'est pas ouf?
Non, mais après, je me suis pas retenu d'acheter un truc okay. en me disant c'est trop cher.
Ouais, ouais.
Tu vois, la maison ou la maison à part ou quoi, pff, ça me tente pas spécialement. J'avais rien de spécial qui me donnait envie. J'avais pas envie de m'acheter une montre. Enfin, j'avais pas. Je me suis dit, ce que je pourrais potentiellement faire sur un coup de tête et qui pourrait coûter beaucoup d'argent, ce serait m'acheter un cheval. Mais là, je monte un cheval que j'aime bien. Enfin, et puis, je suis pas dans le truc de posséder à tout prix hein, ouais. un cheval. C'est pas forcément mon délire actuel.
Ok.
Mais potentiellement, c'est sûr, un jour, si j'ai un coup de cœur, ça pourrait arriver.
Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est juste. Tu pourrais mettre de côté ce truc de... Il n'y a pas d'argent qui rentre. En tout cas pour oui. les années à venir.
Oui, 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 complètement. Ah, c'est sûr que je pourrais m'enlever ça de la tête. Oui.
Et pourquoi tu l'as alors?
C'est une bonne question.
Qu'est-ce qui te fait peur derrière? C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière?
C'est peut-être qu'à un moment donné, je dois me forcer à travailler pour gagner de l'argent. Et que là, je ne suis pas du tout... Je suis trop encore cramé psychologiquement. Je me dis, si demain, je dois me forcer à travailler, je tiens pas mentalement, je pense. Okay. Et là, je me dis, je veux pas y arriver tout de suite.
Ouais.
C'est peut-être ça.
Mais tu te rends compte que...
Mais j'ai de la marge.
Oui.
Oui. C'est sûr. Ouais.
Que déjà, si tu te démerdes bien, normalement, tu seras jamais dans une position... où tu seras obligé de travailler.
Non, mais c'est sûr que, par exemple, quand j'achète mes billets de train pour venir à Paris, tu vois, quand j'hésite entre la deuxième ou première classe, tu vois, quand il y a 20 euros d'écart, j'ai toujours ces deux voix dans ma tête, tu vois, où je me dis, ah, 20 euros, t'as l'argent, mais 20 euros, faut économiser si jamais, tu vois, pour tenir. Toujours ces deux trucs.
Il y a ton père qui te parle, quoi.
Ouais.
C'est trop cher.
Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, on n'a pas besoin, tu vois. Ça, si on avait entendu, on n'a pas besoin, t'as pas besoin. Pas besoin d'acheter les baskets à 100 euros, tu vois. Il y avait toujours ça.
Bah oui, tu pourrais...
C'est bon, tu prendras le train en deuxième. Enfin, ça change rien, tu vois. Ouais, pas besoin. Mais à côté de ça, je peux me faire des trucs, tu vois, de me prendre des super hôtels et tout, je pense justement pour enlever cette voie. Je veux dire, non, mais en fait, je fais ce que je veux, quoi.
Bah oui, tu fais ce que tu veux.
Ouais.
Donc ouais, si... Moi, si j'étais à ta place, j'accepterais le fait que... En tout cas, je crois que c'est important de regarder en face la peur qui te fait dire « En fait, je vais être obligé, je vais être contrainte. » Ouais.
Ah oui, mais c'est hyper intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça.
Bah oui, je sais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... C'est... Tout comme, tu vois, Sébastien dont je te parlais tout à l'heure, en fait, il avait peur de manquer. Et c'était incroyable pour lui de... Il voyait ce bloc comme une sorte de truc insubmersible, un gros caillou dans son sac à dos, en fait. Alors que c'est un truc qui te permet, qui t'offre une liberté incroyable.
Et c'est là où tu te vois, c'est vraiment un truc dans ta tête. Et que le montant, il va pas l'enlever.
Non. Bah non. Parce qu'en plus, tu l'as un peu placé, cet argent, ou pas?
C'est en train.
Ouais. A priori, il va te rapporter un peu. Enfin, ça dépend.
Oui, oui.
Ça dépend de la période, ça dépend de plein de trucs et tout. Mais
après, moi, je trouve déjà cet argent incroyable. Que tu vois, je suis pas forcément dans la recherche de gagner le maximum grâce à cet argent, etc. Donc.
Non, j'ai un peu l'impression. Tu veux t'offrir. En fait, en gros, j'ai un peu la sensation que c'est la possibilité pour toi de t'offrir une liberté.
Oui, liberté et tranquillité d'esprit.
Et de plus jamais être contrainte de travailler.
En tout cas, de ne pas me devoir le faire maintenant où je ne me sens pas en forme.
Voilà.
Et de me dire, ça t'enlève quand même une énorme charge mentale de te dire, ok, je dois prendre des billets de train, je dois acheter un truc, je peux le faire sans me poser la question de combien j'ai sur le compte, etc.
Et en même temps, je trouve ça hyper cool que tu t'autorises ce moment de vide.
Ah oui, non mais grave, et c'est là où je me dis, où je suis contente d'avoir vendu la boîte et d'avoir réussi à faire ça, pour pouvoir avoir ce moment
C'est dur pour toi le vide?
Ça dépend des jours. Alors ça a été dur au tout début. Là c'est moins dur. Là je commence à trouver mon rythme. mon quotidien, tu vois. Le cheval, je me lève tard, etc. J'apprécie, je prends le temps. Et je me rends compte que je ralentis tout et j'adore. Tu vois, genre, j'écoute les vocaux en x1. Tu vois, je prends le temps et je me dis, mais en fait, pourquoi on veut gagner du temps, tu vois? Pourquoi faire? En fait, la vie, elle est en vitesse 1, tu vois. On n'accélère pas le quotidien, tu vois. Je te dis pas, je t'accélère, Fabrice, je parle plus vite, j'ai pas le temps, tu vois. Et je me dis, en fait, je veux revenir à ce truc de, en fait, on n'est pas là juste pour aller plus vite, plus fort, plus optimisé, etc. Donc là, je suis dans, j'apprécie les temps plus longs de dormir, alors qu'avant, je pouvais culpabiliser de pas me lever tôt en mode, ouais, tout ce que tu pourrais faire, etc. En fait, là, maintenant, comme j'ai rien à faire, il faut que... Enfin, il faut. Je sais pas, il faut, mais je peux prendre le temps de ne rien faire.
Tu te recrées des contraintes. Tu te recrées une contrainte. Il faut. Il faut que je dorme.
Il faut que je me lève tard. Mais c'est sûr que les journées sont longues parfois. Et c'est plus ça, en fait, qui est... Alors, c'est pas paniquant du tout. Au début, c'était un peu angoissant. Mais maintenant, c'est que c'est plus de l'ennui. Alors, par contre, j'adore. Je prends le temps de lire. Tu vois, je lis beaucoup. Je passe beaucoup de moins de temps sur les écrans. Je me suis dit, surtout, tu ne remets pas Netflix avec la vente de la boîte. J'ai pas envie de... Tu vois, là, je sens que j'ai besoin d'être dehors, tu vois, de faire du cheval, de marcher, de voir des arbres, et pas d'être sur mon téléphone. Et du coup, je prends le temps. Et ça, c'est trop cool. Et là, j'ai l'impression que tout le monde veut aller vite autour de moi, et même de manière générale. Et je dis, non, mais c'est bon. Vocal en x1, c'est vraiment mon truc. Je peux prendre le temps d'écouter une personne parler en vitesse normale. Voilà.
C'est incroyable ce truc de vocal en x1.
Ouais. Et je reçois des longs vocaux, hein, parce que j'ai des adeptes. J'ai des 11 minutes, tu vois.
Ah ouais, pour moi, c'est la base, 11 minutes. Moins de 11
minimum.
Minutes, moins de 11 minutes, c'est une insulte, quoi, tu vois. Comment ça, tu...
T'aurais pu écrire. Hein.
Tu me considères pas, franchement.
Un peu de respect.
Moi, c'est cool. En tout cas, bravo hein, pour ce chemin. Parce que, mais même dans le chemin que t'es là, j'ai l'impression qu'on s'est vu il y a. On se côtoie un peu. J'ai l'impression qu'on s'est vu il y a un mois où t'étais dans le dur et ça va mieux quoi. Ouais. C'est cool.
Je suis dans une bonne vibe. Après, je sais que c'est un peu les montagnes russes, mais c'est pas les montagnes russes comme ça. Alors là, je montre avec les mains, désolé pour les gens, mais c'est les montagnes russes comme ça, tu vois, je pense.
Les montagnes russes qui montent.
Voilà.
Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler?
Je réfléchis sur l'argent. Non, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est les gens autour de moi là, qui en font un sujet plus que moi, tu vois. Quand je parle que j'ai vendu la boîte, « Ah, mais tu l'as bien placé, c'est bon, t'as été bien conseillé, machin, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et ça me saoule, tu vois. Ce sujet, et s'il y a peut-être un truc de l'argent en ce moment qui me dérange beaucoup, c'est le marqueur de succès, de réussite lié à l'argent. Tu vois, qu'on voit sur LinkedIn, sur les réseaux, il a fait 10 millions, machin, il a vendu. Et en fait, t'as vraiment l'impression qu'il y a une course à l'argent et que c'est ça le succès dans la vie, c'est ça la réussite, c'est l'argent, gagner plus d'argent.
Mais t'étais là-dedans aussi? Puisque tu racontais au tout début du podcast que tu avais voulu ne pas divulguer le montant parce que tu considérais que c'était pas assez.
Bah en fait, c'était pas que j'étais là-dedans, c'était que je sais que les gens pensent ça.
Okay.
Et ça me dérange, tu vois, de rentrer dans ce truc de j'ai vendu tant de millions. Tu vois. Et j'ai envie de sortir, moi, de ce rapport de marqueur de. Tu vois, c'est genre, t'es à quel étage, tu vois.
Mais tu te rends compte que, en fait, je comprends hein, ce que tu dis, mais tu te rends compte que, en ne le disant pas, tu contribues finalement à une forme de bullshit. Et je comprends pourquoi tu veux pas le dire, hein, tu vois, mais juste pour te faire un peu le miroir. En fait, t'es aussi en train de contribuer au bullshit ambiant. C'est-à-dire que si tu viens raconter, ok, en fait, voilà,
j'ai le vrai montant.
J'ai vendu la boîte au temps. Et voilà pourquoi je l'ai vendue. Et voilà, en fait, ce que ça m'a amené. Et ouais, effectivement, en fait, je suis très heureuse. J'aurais aimé le vendre deux fois plus cher. Mais au final, je me retrouve avec cet argent. Et ça me permet de pouvoir m'offrir tout ça. Et de pouvoir m'offrir ce temps. Et en fait, c'est à ça que ça sert. Enfin, tu vois, il y a un discours aujourd'hui à contre-courant de ce truc qui est je suis mille fois d'accord avec toi. En plus, c'est que du bullshit. C'est que des gens qui parlent de Valo, machin. Mmh. Effectivement, les mecs qui racontent qu'ils ont levé autant, machin, une fois qu'ils se crament leur boîte, parce qu'il y en a qui font ça, quoi, on les entend plus, hein, on les voit plus. Ou alors, si, ils finissent par revenir en disant voilà ce que j'ai
vous avez des conseils pour gagner 10 000 euros par mois. Et là, vous serez heureux.
Et je comprends pourquoi tu le fais.
Mais c'est juste, vrai, tu as raison.
Tu vois, j'essaie de te faire un peu un miroir de. Ouais. De voilà, en fait, quand tu ne fais pas ça, et je comprends pourquoi tu le fais pas, hein, tu vois, t'es aussi en train de jouer le jeu.
C'est vrai.
De ce bullshit. Et je comprends pourquoi. Et ouais, par rapport à tes copains start-upers, par rapport à tout ce bullshit, ça, c'est de la merde.
Ouais.
C'est totalement de la merde. Parce qu'à la fin, comme tu dis, est-ce que la vie, ça n'est pas tout simplement de pouvoir prendre le temps d'écouter les vocaux en foi?
Exactement. Non mais c'est vrai, et puis même toutes les même sur YouTube, enfin le putaclic c'est l'argent, tu vois. Comment être millionnaire, comment j'ai fait pour gagner 10 000 euros par mois, qu'est-ce que j'ai vendu, et il y a un truc de il faut vendre, tu vois. Il faut vendre.
Mais tu fais quoi avec cet argent? Est-ce que t'es heureux?
Ben c'est ça.
Tu vois, pour moi c'est tellement de projections, et en fait tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, venez d'abord écouter Histoire d'argent, venez d'abord travailler sur vos propres projections par rapport à l'argent, venez vous rendre compte qu'en fait, une fois que t'as vendu ta boîte, que t'es en train toi-même de te rendre compte que, ah putain, peut-être qu'en fait, cet argent-là, il me permet de pouvoir avoir cette liberté-là, peut-être que tout simplement, le truc qui me fait peur, c'est d'être contrainte à aller travailler alors que j'ai pas envie d'aller travailler.
Et moi, je voyais même des salariés que j'avais en prod, mais qui étaient hyper heureux dans leur vie. Et tu vois qu'il y avait même des choses que j'avais pas, du style mec, enfant, famille, épanoui, etc. Toujours le sourire le matin, trop content de venir. Enfin, tu vois, des gens qui rayonnaient et qui gagnaient beaucoup moins leur vie, en fait. Et c'était pas forcément... Qui gagnaient moins d'argent.
Parce qu'au contraire, leur vie...
Ben oui,
c'est ce que tu dis.
Il avait gagné mieux. après, c'est sûr qu'il y a un confort que j'avais qu'ils n'avaient pas, et que forcément il y a des difficultés que je voyais pas. Ils n'allaient pas forcément m'en parler, etc. Tu vois, je comprends et je vais pas dire que leur vie est plus simple. Mais c'est sûr que j'en vois. Ils étaient beaucoup mieux dans leur tête, je pense, dans leur corps. Parce que ça ne résout pas que moi, c'est sûr.
Bien ouais, Jean. Merci d'être venu.
Merci à
partager
toi
tout
pour
ça.
Ces réflexions.
Avec grand plaisir. je vous mettrai tous les liens pour aller suivre. Parce que ça y est, est-ce que tu es toujours Chanty la Bisqueen sur Instagram? Ça ne changera jamais, ça?
Ben, figure-toi que déjà, je ne pouvais pas le changer parce que mon compte est certifié. Et tu ne peux pas changer le nom d'un compte certifié parce que j'ai essayé. Bref. Et hier soir, pendant
c'était
coaching,
le surnom que tu te...
C'était la Bisqueen, la reine des biscuits.
Que tu te donnais à l'époque de Chanty Bisqueen.
En fait, c'est quelqu'un qui l'avait dit sur Insta, je l'avais reposté et tout le monde a dit c'est génial. Et c'est devenu mon titre officiel et j'adore. Et hier soir, pendant mon coaching, je me fais coacher pour la conférence, le coach me dit « Mais en fait, t'es la Bisqueen, t'es la queen bis. Tu vas être la queen d'autre chose. Donc tu es la queen en deux, quoi. » Donc tu peux garder le titre, tu vois. Tu l'as toujours, quoi. Oh, so smart, il a raison. Donc je suis la Bisqueen. On ne sait pas encore de quoi le prochain truc, mais voilà.
Merci beaucoup, Chanty, c'était chouette.
Merci à toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.